19h sur campus, tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hisse la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on dans 10 secondes!
Et même du sport.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous venez d'embarquer à bord du sous-marin, nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité. Au programme ce soir, nous recevons Annick Cesbron et Mathilde Clémencel. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes respectivement technicienne et marionnettiste de la compagnie À Travers Champs et vous présentez mercredi et samedi un spectacle intitulé Mousse des bois et bain de gadou. Ça se passera au Séchoir à Chanzeau. Nous vous diffuserons également une interview réalisée cet après-midi de Camille qui est membre de la commission communication du convoi Cap vers la COP21 de Notre-Dame-des-Landes à Paris. Faisal, lui, nous parlera de sport et Antoine, comme d'habitude, vous présentera son cabinet des curiosités. Mais maintenant, vous en avez l'habitude aussi, on commence par un reportage.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Un reportage comme souvent réalisé par Thibaut qui était samedi dernier à Nantes et on va parler de beatbox.
Une foule hétéroclite était rassemblée sous les nefs de Stéréolux samedi dernier afin d'assister à la finale du 9e championnat de France de beatbox. Ils étaient 40 compétiteurs la veille à se disputer une des 16 places leur donnant la possibilité d'accéder au titre. Malo, un jeune passionné, nous explique ce qui fait l'intérêt de cette compétition.
Ce qui est vachement intéressant en fait au niveau des championnats de beatbox, c'est que justement les beatboxers ont vraiment des niveaux et des styles très différents entre eux. Et t'as des mecs qui vont être plutôt techniques sur la rapidité et la précision des beats, et t'en as d'autres qui vont être plutôt sur du beatbox très rythmique. Est très musical, ils vont faire des mélodies, ce genre de trucs, et t'en as d'autres qui vont être dans la puissance, ils vont entraîner le public, faire des gros sons, des grosses basses et tout, et du coup c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est vraiment la différence de style entre chaque beatboxer, c'est vraiment super intéressant.
De nombreux beatboxers sont présents un peu partout, qu'ils soient venus concourir ou soutenir leurs favoris. Trois d'entre eux reviennent sur leur parcours.
Salut, salut, ben, moi c'est Sammy Trai.
Salut, moi c'est Bronix. Tout simplement.
Quam, from Ireland.
Pour ma part, on va dire depuis 2010 que je beatbox assez souvent. J'ai eu la chance de participer aux événements à partir de 2013. Parce que c'était à Lyon, du coup, le championnat de France en 2013. Et comme je suis de la région lyonnaise, bah, j'en ai profité. Hein, je me suis inscrit. J'ai réussi à être sélectionné parmi les 40 dans un premier temps. Et pas parmi les 16 pour les phases finales. Mais c'était une première participation, du coup, ça m'a permis de rencontrer un peu toute la communauté beatbox. Et ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on lâche pas, on essaye, hein, comme on dit.
Bah moi j'ai commencé le beatbox en 2009. Dans mon lycée, il y avait déjà un beatboxer. On a travaillé ensemble et ensuite, premier championnat en 2013, sélectionné dans le top 40. Après, j'ai fait des battles au Canada et aux États-Unis. Et je suis revenu là en 2015 pour le championnat de France et je me suis qualifié dans le top 16.
J'ai perdu contre Alexinho, c'est le Nantais du coup. C'est celui qui a le plus de probabilité ce soir. Bah, je vous souhaite bonne chance. Hein.
2007, I got it because I was watching Police.
J'ai commencé en 2007 en mettant Police Academy. Michael Winslow en faisait et je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Je ne suis pas dans la compétition, mais je suis venu soutenir mes potes de Lyon.
Bah, tous les beatboxers, ouais, c'est une bonne communauté. Du coup, on essaye de se tenir informé à chaque événement. Dès qu'il y a un beatboxer qui voyage un peu, qui a une scène genre sur Paris, bah, tout de suite, on va contacter les poteaux de beatboxers de Paris. Je joue vers chez toi, ça te dit de venir, on passe un bon moment. Et tous un peu des grands amis, ouais, même à l'étranger, du coup, on s'y en joue régulièrement sur Internet. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir les beatboxers. Hein. Bah là c'est pareil, l'ambiance, on reste toujours bien potes, bon pote malgré qu'on battle l'un contre l'autre. On essaye de gagner, on donne tout généralement, même si bien qu'on se connaisse tous très bien, on essaye quand même de gagner et puis on reste quand même, l'esprit compétition est toujours là, peu importe l'événement.
Moi pour ma part, je trouve que par rapport au battle classique, quand là c'est le championnat de France et vu que c'est plus sérieux, il y a quand même une petite pression en plus et fait que du coup on va forcément répéter nos rounds juste avant et tout le monde est vachement plus impliqué et ça se ressent.
I compete in Irish Beatbox Championship, French Championship. I've been to British Championships, the UK Championships.
J'ai fait les championnats irlandais et britanniques, mais les championnats français c'est la crème de la crème, en Europe ou n'importe où dans le monde. Les championnats du monde et les championnats de France sont vraiment la mecque. Tu dois être présent, voir ce qui se passe, c'est énorme.
Ça ne veut pas dire que les autres compétitions sont moins bien, bien sûr, mais En France, la technique est... on est OP, ouais.
Le beatbox est vraiment omniprésent puisqu'il est même possible d'avoir droit à une leçon express en traînant près du stand de merchandising.
Ok, alors tu fais plus lentement. C'est mieux comme ça. Plus souple, voilà. Vas-y, fais doucement. Ok, je t'accompagne. Continue.
Les battles se succèdent en équipe ou en solo, féminine ou masculine, et arrive enfin le moment de la grande finale.
Yeah, on passe au final homme désormais. C'est l'avant-dernière finale. C'est l'équipe de champion de France. Alors tout le monde s'est fait. 3, 2, 1,
Après délibération, ça sera le local Alexinho, il est vrai favori de la soirée, qui remportera le titre. Malo revient sur les raisons de cette victoire.
Alexinho, c'est vrai que c'était le vice-champion l'année dernière déjà, il envoyait vraiment du lourd et cette année je pense qu'il a vraiment dominé la compétition parce que lui c'est plutôt un beatbox un peu très puissant. J'aimerais bien même le comparer tu vois, au champion du monde de cette année qui est aussi français qui s'appelle Alem. Et c'est vraiment un beatbox super puissant mais en même temps qui entraîne le public sur des gros sons. Et il a vraiment une prestance scénique aussi, il a un charisme, tu vois, il arrive à confronter ses adversaires et à répondre avec des beats adaptés souvent des petits clashs, tu vois, mais ça reste toujours très convivial dans le beatbox, c'est ça qui est cool.
Si la salle Maxi s'est vidée de moitié, la soirée n'est pourtant pas finie, puisque les excellents rappeurs The Alchemist et Oh No viennent défendre le nouvel album de leur projet commun, Gangrène. Des sons puissants et variés, alliés à une ambiance extrêmement bon enfant, ont fait de ces 9e championnats un événement unique en son genre. Co-organisé par Beatbox France et Pickup Productions, nous ne manquerons pas de recroiser ces derniers en février prochain pour leur grande messe annuelle, le festival Hip Hop Session.
Alors Thibaut, tu as réalisé ce reportage, ça avait l'air pas mal, je suppose que la salle était blindée ?
Ouais, pour les championnats au moins, la salle était pleine, après ça s'est assez vite vidé pour Gangrène qui passait après, mais c'était vraiment une soirée assez fabuleuse, ouais.
Annick Cesbron, Mathilde Clémencel, vous connaissiez cet univers du beatbox ?
Oui, mais sans l'avoir pour autant souvent croisé pour ma part. Mais c'est assez fascinant, là, ce petit reportage, quand on n'y connaît pas grand-chose et que c'est un mélange de compétition un peu sportive, on a l'impression qu'il y a... Et puis à la fois, cette expression, finalement, la voix, c'est quelque chose de... Bon, ben, en spectacle vivant, c'est un de nos outils principaux. Donc, tout ce qu'on peut faire avec sa voix et tout ce que la voix peut révéler de ce qu'on est, je trouve ça très intéressant.
Ce serait imaginable d'intégrer du beatbox dans un spectacle de marionnettes, par exemple.
Ah bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est à sa place. On travaille déjà avec la voix, nous, les marionnettistes, puisqu'on va être capable de faire plusieurs voix, en fait, pour toutes nos marionnettes. Hein. Donc là, dans Mousse des Bois et Bangadou, par exemple, je dois avoir... faudrait que je recompte exactement, mais j'ai au moins 7 ou 8 marionnettes qui ont chacune leur voix, leur tessiture, enfin... Donc, leur façon de parler. Donc, on est déjà un peu dans le beatbox. Mais par contre, je ne pourrais pas concourir. Là, je ne suis pas dans les clous. Quoi.
Comment ça, vous n'avez pas le niveau? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ils n'ont pas du tout d'entraînement. En plus,
mais c'est vrai que c'est complètement lié au travail, par contre, du marionnettiste par rapport à toutes les voix qu'il faut être capable de faire pour faire les différents personnages.
Et moi, ça m'aurait bien intéressé de m'arrêter au stand où on pouvait s'y essayer. Quoi. Ça me tente vraiment.
Très bien. Eh bien, un appel à tous les beatboxers. Hein, si vous voulez participer, éventuellement échanger avec la compagnie à travers champs, je peux leur dire qu'ils sont les bienvenus. Mm-hmm. Allez, le sous-marin revient dans un peu plus de 3 minutes. Vous êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus. À l'instant, c'était Guy Andrews avec la chanson In Autumn Arms. Et avec nous, dans le studio, Annick Cesbron et Mathilde Clémencel de la compagnie À Travers Champs. Alors, vous présentez votre spectacle mercredi et samedi prochain au Séchoir, à Chanzeau. D'abord, pour revenir un petit peu sur la compagnie À Travers Champs, dans votre démarche, l'idée, c'était de sensibiliser votre public, notamment aux enjeux écologiques ?
Alors, tout au début, il y a 12 ans, quand j'ai créé la compagnie À Travers Champs, mon questionnement, il était vraiment comme une révélation. Je suis fille de la campagne et je ne connais que très peu de noms de fleurs, d'arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on ne m'a pas transmis tout ce savoir ? Je découvre en plus toute la dimension médicinale des plantes. Je découvre les contes, les histoires tirées du végétal. Et je réalise aussi que nous-mêmes, nous sommes issus de ce végétal dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, me voilà embarquée dans ces histoires-là et me voilà en train d'écrire les premiers spectacles de la compagnie À Travers Champs, dont la ligne artistique est donc maintenant le végétal en scène. Voilà.
Et donc, vous avez un public assez large, vous destinez en majorité aux jeunes ou c'est vraiment tout public ?
Au fil des créations, les équipes ont été diverses selon les spectacles. Aujourd'hui, il y a 5 spectacles à la compagnie À Travers Champs qui tournent, dont Mousse des Bois et Bain de Gadou, dont on va parler aujourd'hui. Mais ça va de spectacles essentiellement pour adultes, on va dire, à partir de 15 ans, à des spectacles tout public, pour certains, même en déambulation au milieu des champs, à des spectacles de contes théâtralisés pour le jeune public, ou le public jeune, on devrait plutôt dire, selon moi, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont encore très peu allés au spectacle et on a envie de les faire venir.
Thibaut,
est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire donc, de ce spectacle que vous présentez, qui s'appelle, je le rappelle, Mousse des Bois et Bain de Gadou ?
Alors, Mousse des Bois et Bain de Gadou, c'est l'histoire de Myrtille qui a une dizaine d'années et qui vit dans une cité suspendue. En fait, sa ville, elle est accrochée à des fils et la route est au-dessus des bâtiments, si vous voulez. Donc, c'est toute une cité qui est complètement coupée du sol, par confort, en fait, par protection. Et évidemment, ça nourrit complètement sa curiosité. Elle n'a qu'une envie, c'est aller au sol pour voir ce que c'est. Est-ce qu'on peut voir les arbres qui poussent ? Est-ce que la mousse des bois, c'est comme la mousse au chocolat ? Enfin, des vrais questionnements assez naïfs et en même temps, voilà, c'est... Alors, à un moment donné, c'est une évidence et elle y va. Alors, elle prévient tout le monde, mais personne ne veut la croire qu'elle y va, vraiment. Et donc... au petit matin, elle descend et on va la suivre dans son voyage en pleine nature. On va la suivre dans toute cette aventure où elle va se découvrir vivante.
Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce spectacle, justement ?
C'est vraiment l'idée de se relier. En fait, hein, de se sentir partie prenante de cette nature, puisqu'en fait, on a des modes de fonctionnement aujourd'hui où effectivement, on est coupé, il y a la nature d'un côté, puis il y a nous, parce qu'en fait, c'est devenu une ressource voilà, pour manger, pour se vêtir. Et on ne sent pas forcément qu'on en fait partie, alors qu'en fait... à l'intérieur de nous, l'énergie, elle circule comme dans les plantes et comme dans les animaux. Et qu'en fait, on a notre place aussi dans la nature. Pas forcément, c'est pas invité à vivre dehors, mais c'est juste se sentir vivant, en fait.
Comment vous est venue l'idée de ce spectacle ? Il me semble que plusieurs artistes ont collaboré, en tout cas, à la création de ce spectacle.
Oui, en fait, on est très nombreux sur ce spectacle parce que c'est très ambitieux. À la base, on voulait partager un émerveillement sur la nature. Alors, on voulait que le spectacle soit très, très beau, évidemment, puisqu'on fait traverser 4 paysages à Myrtille, où on voulait qu'il y ait les vrais éléments naturels, du vrai sable, de la vraie gadoue, de la vraie mousse. Qu'est-ce qui manque ? De l'eau, voilà. Et en même temps, voilà, on voulait que tous les êtres vivants soient des mêmes matériaux. Donc, c'est la laine qui s'est imposée. Donc, la laine feutrée, la laine tricotée, la laine enroulée pour que ça, voilà, on puisse se partager pour les animaux, les végétaux, les humains, que ce soit voilà, l'idée qu'on soit tous des mêmes atomes. Et là, c'est la laine qui partage ça. Et donc, il fallait beaucoup de monde pour réaliser ce vaisseau planète. Aussi, réaliser la cité suspendue, faire la création sonore, faire la création lumière. Donc, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé.
Alors, on rappelle que ce spectacle sera joué au Séchoir à Chanzeau. On va peut-être en dire un petit mot de cette salle. Je ne sais pas qui...
Alors, le Séchoir, oui, le Séchoir, c'est à l'origine une grange à foin à la ferme du Vaugalard, donc à Chanzeau, à 25 km d'Angers. Hein, c'est tout près. Et cette grange à foin est devenue un jour un lieu de stockage de plantes médicinales dans laquelle j'ai commencé à accueillir du public. Et ça sentait les plantes dans ce lieu. Et petit à petit, le lieu s'est vidé des sacs de plantes. Et je me suis dit, c'est le lieu idéal pour y créer des spectacles sur le végétal. Donc, avec toute une équipe d'amis et d'artisans, ce lieu s'est transformé en petite salle de spectacle avec une jauge de 50 places. Le temps des travaux, on a expérimenté des accueils de compagnies en résidence, on a expérimenté des programmations d'événements, des bals, plusieurs formes d'événements qui pourraient s'y produire. Et là, on est à la veille de vraiment officialiser l'existence de ce lieu alternatif pour lequel on aimerait effectivement une sensibilité vers la marionnette. On aimerait y accueillir des compagnies en résidence pour proposer des sorties de création. Et évidemment, la compagnie à travers champs continuera aussi d'y diffuser ses propres créations. Mais voilà, c'est un petit lieu à découvrir.
Thibaut, vous avez présenté donc ce spectacle au off du Festival mondial des marionnettes qui s'est déroulé à Charleville-Mézières fin septembre dernier. Quel retour vous avez eu lors de ce festival sur votre spectacle ?
Alors, c'était vraiment super d'être là-bas parce que c'est vraiment le grand rendez-vous des marionnettistes français mais aussi internationaux. Et là, on a eu beaucoup de chance. On a eu un public complet sur 3 séances. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de propositions à Charleville. Donc, c'était très agréable de voir que notre proposition attirait du monde. Et on a eu des très, très bons retours, en fait, sur le voyage. C'est-à-dire que les spectateurs se sont sentis vraiment partir en voyage avec nous. On redécouvert à travers Myrtille des sensations oubliées, où on jubilait avec elle de cet espace de liberté qu'elle s'offre, en fait, parce qu'elle va vraiment dans l'eau. Elle s'offre un peu, une grande exploration
au cœur de la nature. Voilà.
Et les enjeux sont vraiment, c'est vraiment de sentir cette vie qui circule partout et ça fait du bien, en fait.
Et ce qui a été magique pour la compagnie à travers champs sur cet événement, c'est qu'on a vraiment aussi eu des retours d'autres compagnies, d'autres artistes, d'autres professionnels qui ont reconnu dans cette proposition artistique une véritable originalité, c'est-à-dire nos marionnettes en laine. C'est quelque chose qui est très créatif et qui a suscité beaucoup la curiosité des professionnels. Concrètement, ça se révèle pas une grosse tournée derrière, mais c'est des prises de contact très, très, très encourageantes pour le travail de la compagnie.
Et justement, avec ces prises de contact, vous imaginez, alors, je ne sais pas, éventuellement des collaborations ou comment ça se passe ?
Bah là, on a très envie, en fait, parce que la compagnie à travers champs est adhérente à Théma. Théma, c'est une association, en fait, qui regroupe les marionnettistes qui veulent bien adhérer à l'association, mais pour promouvoir les arts de la marionnette. Et donc, avec Théma, on fait beaucoup d'échanges, de mutualisation, de savoir, de recherche aussi autour de la marionnette. Et là, il y a l'idée de proposer une rencontre au Séchoir, une rencontre en fait des marionnettistes des Pays de la Loire. On va passer les invitations pour l'automne 2016, histoire de se retrouver et puis d'échanger sur nos métiers et de voir ce qu'on peut faire pour que les arts de la marionnette soient mieux connus, parce que on les cantonne encore beaucoup trop dans l'enfance. Enfin, pour l'enfance, et puis aussi dans des registres où on se dit que c'est un peu... peut-être pas très nourrissant, plus juste divertissant, en fait, souvent.
Qu'à Charleville-Mézières, effectivement, on peut découvrir des formes de marionnettes très, très, très variées, très inventives, avec des matériaux très divers. Donc, c'est vrai que nous, notre idée de proposer quelque chose à l'échelon régional au séchoir pourrait dynamiser cet art de la marionnette sur notre territoire.
Parce que le public adulte est plutôt réticent à l'idée d'aller voir un spectacle de marionnettes ou
Je pense pas, mais on pense tout de suite que c'est pour les enfants. Hein. Bon, bah là, c'est vrai que nous, Mousse des Bois et Bangadou, c'est une écriture jeune public. Donc, ça ne va pas contredire ce que pensent les gens. Effectivement, pas avec ce spectacle. Mais en fait, la marionnette est un média tout simplement pour parler de tous les sujets. Donc, a complètement sa place pour pouvoir aborder des sujets spécifiquement adultes, en fait.
Thibaut,
si vous en aviez la possibilité, vous aimeriez pouvoir partir un peu en tournée pour présenter ce spectacle vers peut-être d'autres publics?
Oui, évidemment.
Oui, il faut, on est vraiment dans la dynamique de faire connaître notre travail. On tourne déjà, mais pas suffisamment dans les réseaux strictement culturels. Hein, c'est difficile de changer de réseau une fois qu'on est. Donc c'est en cours, voilà.
Et l'opportunité d'être à Charleville-Mézières, c'était justement pour nous un moyen de rentrer en relation avec de nouveaux réseaux. Donc le travail continue et on va développer nos dates.
Alors, on se demandait, avec les terribles événements de vendredi 13, les attentats à Paris, est-ce que vous avez hésité à jouer ce spectacle ou au contraire, c'était plutôt le sens de se dire « Eh ben non, il faut continuer la lutte, donc forcément, il faut continuer la culture et continuer à produire les spectacles
?» En fait, oui, moi, je ne me suis même pas posé la question d'annuler ou pas, en fait. Mais c'est parce qu'on n'est pas parisienne. Peut-être s'il y avait eu danger pour le public, on serait posé la question. Hein. Mais là, c'est vrai que non, évidemment pas. Moi, je suis très heureuse quand j'entends les médias justement qui relaient tous les témoignages de vie, de se dire, faut qu'on soit plus ouvert, dans la convivialité, qu'on se voit davantage. Et j'aime bien tous ces messages-là qui ressortent au lieu du repli sur soi.
Annick Cesbron, vous partagez ?
Complètement, on n'en a même pas parlé ensemble. C'était une évidence que le spectacle allait avoir lieu, The Show Must Go On. Et je jouais, moi, sur un autre spectacle de la compagnie à Traversant qui s'appelle Cueille la vie, qui est un spectacle, un répertoire de chansons. Et dans une des chansons qu'on interprète, qui s'appelle Le discours des fleurs, qui est une chanson de Georges Brassens, pour les curieux, vous pouvez essayer d'aller l'écouter. En la chantant, je me suis dit, vraiment, on a raison d'être sur scène, de porter ces paroles-là. Les fleurs nous envoient des messages, la nature nous envoie un message de vie. Donc surtout, venez voir Mousse des Bois et Bangadou.
Voilà, allez voir Mousse des Bois et Bangadou. Vous retrouverez toutes les informations, plus d'informations sur la compagnie à travers champs sur notre site internet, sur la page du podcast où on vous renverra vers tous les liens utiles. Tout de suite, eh bien, parlons un petit peu de sport. Et oui, parlons de sport. Alors Faisal est là, hein, il est chaud bouillant, hein, le sportif de l'émission. Week-end très très chargé en plus sur la planète sportive. Il y en avait pour tous les goûts, du foot, du basket, de la natation évidemment, avec les championnats de France à Angers, du tennis. Tu vas donc nous faire un petit tour d'horizon et on commence tout de suite avec le foot.
Eh oui, tout à fait Pierre-Louis, on va être un petit peu chauvin. On va commencer par ce qui s'est passé pour le SCO d'Angers qui se déplaçait hier au stade de Malherbe de Caen. Et malgré un beau match de nos Angevins, le résultat est resté vierge, 0-0. Et avec ce résultat nul, le SCO remonte à la 5e place du championnat. Prochain match du SCO, ce sera le samedi 28 novembre. Ils recevront les Lillois. Dans le reste de la Ligue 1, hier soir, il y avait le choc entre Saint-Étienne et Marseille. Et ce sont ces derniers qui se sont imposés 2-0 avec notamment un excellent match de leur gardien, Steve Mandanda.
Alors, toujours football, mais ce coup-ci en Espagne. Hein, Alex, la semaine dernière, nous avait présenté le grand match que tous les fans de foot ont forcément suivi. Bien sûr, le Clasico.
Et oui, forcément, ce week-end, on était impatients de regarder le plus grand match match de la saison, on s'apprêtait à vivre un match très disputé. Eh bien pas du tout. Ça n'a pas du tout été le cas puisque le FC Barcelone s'est imposé 4-0 face au Real Madrid. Une réelle humiliation, un doublé de Suarez, un but de Neymar et un but d'Iniesta. Et avec cette lourde défaite, l'entraîneur du Real Madrid, Rafael Benitez, se retrouve sur la sellette pour son poste d'entraîneur. Et certains voient déjà un dénommé Zinedine Zidane pour le succéder. On va donc suivre cette affaire avec attention. Et pour le reste des grandes affiches du week-end en Angleterre, Liverpool s'est imposé 4-1 sur la pelouse de Manchester City. En Allemagne, le Bayern Munich est venu à bout de Schalke 04 sur la pelouse de ce dernier 3-1. Et enfin en Italie, il y avait également un classico, la Juventus de Paul Pogba s'est timidement imposé 1-0 face au Milan AC.
Alors au programme pour les Angevins, basket.
Oui, tout à fait. Hein. Les Angevins de l'ABC, qui évoluent en National 1, on le rappelle, se déplaçaient ce vendredi à Épinal, dans les Vosges, et ils se sont imposés 72-64. Et grâce à cette victoire, les Angevins remontent à la 9e place du championnat avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites. Prochain match de l'ABC, ce sera ici à Angers, ce jeudi, 26 novembre, jour de mon anniversaire. Ce sera face à Quimper.
Oh, je sens que tu veux des petits cadeaux, Faisal. Bref, un petit peu de tennis.
Et oui, hier se déroulait la finale du Masters de Londres, le dernier tournoi de l'année réunissant les 8 meilleurs joueurs de la saison. Et sans grande surprise, la finale opposait Djokovic à Federer et c'est le Serbe Djokovic qui s'est imposé 6-3-6-4. Il finit donc numéro 1 contestable de cette saison 2015 avec un bilan impressionnant de 83 victoires pour seulement 6 défaites.
Et puis forcément, ça se passait chez nous, un peu de natation.
Et oui, on a eu le privilège d'accueillir à Angers les championnats de France de natation en petit bassin et on a eu la chance de voir du beau monde hein, puisque Mehdi Metella s'est imposé sur le 100 mètres nage libre, Benjamin Stalusius qui a devancé Camille Lacro au 100 mètres d'eau, Yannick Agnel qui remporte le 200 mètres nage libre et Florent Manodou qui empoche le 50 mètres nage libre. Mais on a eu une petite crise adolescent de la part du multiple champion du monde qui a refusé de participer au 100 mètres nage libre et du coup il s'est fait un peu taper sur les doigts par son entraîneur et on pense surtout aux fans qui ont été très déçus de ne pas le voir nager pour ce 100 mètres.
Merci beaucoup Faisal. Eh bien on va remercier aussi Annick Cesbron et Mathilde Clémencel qui doivent nous quitter malheureusement, mais merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir pour parler un petit peu de la compagnie à travers champs et du spectacle Mousse des Bois et Bain de Gadou.
Merci à vous, bonne continuation à Radio Campus.
Merci beaucoup, on se retrouve juste après La Canaille et la chanson Coup de Dette.
Les rênes qui décide, qui commande, qui genouvie sur son échiquier, qui spécule, qui carotte, qui ment, qui tient le fouet, qui affame, qui a soif, qui maintient un genou, qui s'en arrange, fait son beurre dessus, à qui profite le crime. Qui a une dette envers qui a une dette envers qui a une dette envers qui à qui profite le crime. Qui a une dette envers qui a une dette envers qui a une dette envers qui à qui profite le crime. Qui prend de haut, qui se la raconte prétentieux, qui tanne nos peaux, qui envahit, qui part en guerre, qui se croit partout chez lui, qui suce le sang, qui pompe la terre, qui fructifie les yeux fruits, qui licencie avec perte et fracas, qui profite le crime. Qui a une dette envers qui a une dette envers qui a une dette envers qui à qui profite le crime. Qui a une dette envers qui a une dette envers qui a une dette envers qui à qui profite le crime. Les barreaux de chaise ne prennent pas de risque, pile je gagne, face tu payes. L'État est le meilleur des clients et leur assure des lendemains florissants. Veulent nous faire travailler plus pour payer plus pour rembourser plus. Et c'est la spirale infernale, l'engrenage mortifère des créanciers. Et la dette qui monte, qui monte, et la dette immonde qui monte. Toujours ce sentiment de culpabilité, il faut maintenir les pauvres dans l'entonnoir du devoir. Qu'ils se sentent redevables, qu'ils restent en position de soumission. Car le pauvre vit toujours au-dessus de ses moyens, c'est bien connu. Et je les entends nous dire: accusez, levez-vous. Vous vous êtes rendu coupable de surendettement et ce petit jeu n'a que trop duré. Vous avez chanté tout l'été et bien remboursé maintenant. Vous êtes débiteur, vous avez moralement fauté, monsieur. Quand on n'a pas de quoi acheter son pain, on ronge son poing. Regardez-vous, vous êtes un enfant, monsieur, un irresponsable. Vous serez donc placé sous tutelle, tenu en laisse pour votre bien. Vous l'avez bien cherché, ne faites pas l'innocent. On n'est pas pauvre par hasard. Vous vous sentez étranglé? Vous vous sentez acculé, vous étouffez, Ne vous en prenez qu'à vous-même, monsieur. Vous saviez très bien dans quel plat vous mettiez les pieds. Vous connaissiez les termes du contrat que vous avez signé. Vous avez les yeux plus gros que le ventre et... deux yeux de trop, il faut croire. Deux yeux de trop. Fermez les guillemets. Et voilà comment les fous de Bruxelles justifient l'austérité de notre chère vieille Europe. Voilà qui justifie ses conseils paternalistes et ses leçons de savoir-vivre. Ses coups de pression, ses décrets inhumains et son cap de désespérance. L'Europe est unie, mais avec qui et contre qui? Je ne comprends pas. Qui a une dette envers qui? Qui a une dette envers qui? Qui? Qui a une dette envers qui? Qui? Qui a une dette envers qui? Qui? À qui profite le crime? Qui a une dette envers qui? Qui? Qui a une dette envers qui? Qui? Qui a une dette envers qui? Qui? À qui profite le crime? Coup de tête, balayette. Coup de tête, balayette. Coup de tête, balayette. Je ne plus me rayer la tête. Coup de tête, balayette. Coup de tête, balayette. Coup de tête, balayette. Je ne plus me rayer la tête.
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus et tout de suite nous allons vous diffuser une interview de Camille qui est membre de la commission communication du convoi Cap vers la COP21 qui partait de Notre-Dame-des-Landes pour aller jusqu'à Paris, un convoi qui a notamment été ralenti par les forces de l'ordre aujourd'hui. Camille, vous êtes cycliste et membre de la commission communication du convoi de Notre-Dame-des-Landes Paris, bonjour.
Bonjour.
La COP21 est maintenue, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est momentanément différé. Vous, vous avez décidé de maintenir votre convoi cap vers la COP21 de Notre-Dame-des-Landes à Paris. Vous êtes parti samedi dernier, alors la première question, c'est pourquoi ce choix de mobilisation de monter à Paris à vélo?
Alors pourquoi ce choix de monter à Paris à vélo? C'est déjà pour rappeler l'hypocrisie que constitue le fait de faire un rassemblement de gouvernants pour enrayer le réchauffement climatique, alors même que le pays qui préside ce rassemblement annonce, le gouvernement en tout cas, annonce la reprise des travaux d'un aéroport inutile sur un bocage, et sur un très beau bocage et sur une zone où qui va grignoter plein de projets agricoles et plein de belles choses. Ah pardon, je m'embrouille un peu.
Il n'y a pas de souci. Thibaut ?
Alors, quelles sont vos revendications concrètement une fois arrivés à Paris?
Donc, nos revendications une fois arrivés à Paris, c'est donc de rappeler que vont reprendre les travaux pour l'aéroport. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent et que ça constitue une hypocrisie complètement incroyable quand on souhaite enrayer le réchauffement climatique. D'autre part, ça va être aussi de manifester notre soutien à tous les migrants et réfugiés climatiques ou de guerre. Ça va être de rappeler aussi qu'il n'y a pas que le projet d'aéroport hein, qui est existant. Il y a aussi la lutte, il y a d'autres territoires en lutte impactés par ce genre de projet. Il y a le Notav, il y a la ligne TGV Lyon-Turin. Il y a Bure, le site d'enfouissement de déchets nucléaires, et j'en passe, il y en a plein, et de par le monde également. Et puis ça va être aussi l'opportunité pour nous de cimenter encore un peu plus les liens qu'il y a au sein de la lutte, et avec notamment entre nous, mais aussi avec les comités et les soutiens qu'on rencontre en chemin. C'est aussi... voilà.
Alors, on le rappelle, vous êtes parti samedi dernier. Pour l'instant, combien de personnes participent au convoi?
Entre 180 et 200 personnes par jour, on a. Il y a... 160, 180 cyclistes, 5 tracteurs qui tractent les bétaillères dans lesquelles on transporte notre matériel logistique, nos tentes, nos sacs, nos toilettes sèches, et puis et une cabane également qu'on a construite à l'occasion, dans laquelle se tient notre table presse, dans laquelle justement on peut échanger avec les personnes qui la visitent, nos brochures, nos différents regards sur cette lutte.
Alors, comment ça se passe justement une fois que vous arrivez, vous faites une étape, ça se passe comment? Il y a un bivouac, vous organisez des conférences, de ce que j'ai compris, une fois que vous arrivez dans une ville?
Alors oui, ça dépend des étapes. Il y a des endroits, lorsqu'on arrive, notamment ce soir à La Flèche, il sera question de la lutte anti-nucléaire. Ils ont déjà un programme et une fusion à nous proposer. Alors dans ces cas-là, c'est aussi l'occasion pour nous, là où on passe, de mettre en... en lumière, ou en tout cas d'échanger avec les luttes déjà existantes localement. Quand ce n'est pas le cas, en effet, nous, on fait un point sur l'actualité de la lutte NDDL et des autres luttes. On échange sur ce qui s'y déroule là-bas. On diffuse un petit film. Et puis souvent, c'est l'occasion d'un repas et d'un moment de convivialité.
Thibaut, alors vous deviez arriver hier soir à Angers, arriver à 18h à la gare et déambulation jusqu'à la salle d'Avier. Avec l'organisation d'une soirée débat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez pris du retard sur ce programme?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que juste après Ancenis et un petit peu avant Annès, il y a eu un barrage policier qui a encerclé le convoi devant et derrière, qui a bloqué la circulation et qui voulait contrôler une par une les personnes du convoi pour leur notifier, en plus de ce contrôle, pour leur notifier l'interdiction d'accéder à l'Île-de-France, ce qui a été refusé par le convoi. Donc, s'en est suivi 2 heures d'attente au milieu de la route. Hein. Enfin, le convoi s'étant mis sur la droite pour permettre aux véhicules de passer, mais les véhicules ne passant pas parce que la police les avait bloqués, ça a été l'occasion pour le convoi de faire une séance de yoga, de jouer aux cartes, aux échecs, aux frisbees, de réparer les vélos, en attendant que le ministère de l'Intérieur prenne décision de nous laisser continuer notre chemin.
Alors, voilà. Vous avez refusé de donner vos identités à la police. C'est pourquoi? Pour refuser le fichage? Finalement, c'est un acte de désobéissance civile?
D'une part, bien sûr. Et puis, c'est nous, on analyse ce genre de situation et notamment les mesures que constitue le plan d'urgence là, comme une façon en plus de lutter contre le terrorisme, ce qui jusque là ça va, c'est quand même une façon de museler nos contestations et en plus après oui de nous ficher et de nous catégoriser comme militants. Nous on refuse ça et puis voilà.
Alors, comment ça se fait d'ailleurs, puisque on sait que la région, vous avez quand même pas ouvertement soutenu, mais dit en tout cas qu'il ne s'opposerait pas au convoi. Comment ça se fait que d'un coup la police veuille l'arrêter?
Bonne question. On s'est posé la même. Notre réaction dans un premier temps, donc ça a été ce refus, et en parallèle de mobiliser tous les comités. Donc ça a été déjà de mobiliser nos soutiens signataires du convoi, les différents partis et associations, pour qu'elles fassent pression sur la préfecture. Et en parallèle de ça, les comités commençaient à affluer, nous rejoindre pour nous aider. Tous, là, autant qu'on est, on comprenait pas cette situation, puisque justement le préfet de Loire-Atlantique avait annoncé qu'il s'opposerait pas à notre départ. Mais on s'est rappelé qu'il ne s'opposait pas à notre départ, mais peut-être pas au reste.
Est-ce que vous avez l'impression que le pouvoir tient la société civile à l'écart du débat?
Complètement. C'est bien pour ça qu'on a choisi de maintenir notre convoi, de maintenir notre contestation, parce que justement, comme Valls l'a signifié, le gouvernement annonce la COP aura lieu tout de même, les régionales auront lieu tout de même, parce qu'on ne va pas se laisser impressionner, parce qu'il faut continuer de vivre. Nous, c'est pareil, en fait, de lutter, c'est notre vie. Donc, on va continuer à vivre, on va continuer à lutter, et on va pas se laisser impressionner, nous non plus. Moi, je tiens à rappeler quand même que quelques jours après que soit arrivé le plan d'urgence, je pense que c'est dimanche dernier, si je dis pas de bêtises, il y a quand même eu lieu une manifestation à Paris, en Île-de-France, une manifestation de soutien des migrants et des réfugiés, qui s'est démantelée à République, mais voilà, qui a eu lieu. Et je pense qu'ils ont raison, et nous aussi, il faut malgré ça, le peuple continue à exprimer ses revendications.
Alors, le gouvernement avait exprimé quand même sa volonté de maintenir les événements, alors pas dans la forme telle qu'ils étaient prévus, comme les grandes marches citoyennes à Paris, mais une volonté de maintenir certains événements, essayer de voir ça différemment les organisateurs. Vous avez été en contact pour essayer d'organiser autre chose ou pas?
Avec ces organisateurs des manifestations du 29 et du 12, non. Pas spécifiquement. C'est vraiment une initiative qui est à part et qui n'est pas inscrite avec tout ça. On a fait notre manifestation de notre côté.
Alors, pour la suite, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes interdit d'accès en Île-de-France. Vous allez quand même essayer d'y aller?
Nous, pour l'instant, on maintient notre cap. on avise, on s'adapte à la situation étape par étape et on verra. Pour l'instant, on avance.
Mais est-ce que, quelque part, vous comprenez la peur de l'exécutif dans le sens où peut-être que ce n'est pas forcément contre vous, mais ils ont éventuellement peur qu'une attaque puisse se produire quand il y a une mobilisation de masse?
Bien, je comprends qu'ils utilisent cet argument pour empêcher et museler les contestations, ça ne m'étonne pas, d'eux. Cela dit, je ne suis pas sûr qu'ils soient réellement en mesure, avec, même avec toutes ces mesures, d'empêcher ces choses-là d'arriver. Et donc, elles peuvent avoir lieu pendant les régionales, pendant la COP21, dans le Bourget. Ils le maintiennent quand même. Nous, c'est pareil, hein. Elles peuvent avoir lieu, mais on le maintient quand même.
Alors, pendant très longtemps, vous vous êtes méfié de la presse. Aujourd'hui, vous avez une commission de communication. Vous ne lésinez pas sur les communiqués. Qu'est-ce qui a changé? Quel rapport vous avez aujourd'hui avec la presse?
Alors, ce qu'il y a, c'est pas vraiment que les choses ont changé. C'est que là, vraiment, cette initiative-là de ce convoi, elle s'est pensée avec l'ensemble des composantes du mouvement. L'ensemble des composantes du mouvement n'a pas la même approche que celle des occupants avec la presse. Donc, il en a été convenu, il en est ressorti après nos diverses assemblées, que comme il était question pour nous d'utiliser tous les moyens possibles d'être mis en lumière, toutes les formes de médias étaient à prendre en compte. Et on a choisi de ne pas évincer les médias, l'Assemblée a choisi de ne pas évincer les médias nationaux et autres.
Et alors, ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite pour la journée d'aujourd'hui?
Nous sommes partis ce matin d'Angers. Après être passé d'ailleurs ce matin, avoir fait escale devant un squat de réfugiés qui a été expulsé il y a peu, la Pignonnière, il s'appelle ce squat. Et, bon, c'était une façon pour nous de manifester notre soutien et de rappeler la bêtise que constitue le fait de fermer et de sécuriser une maison vide alors qu'il y a des gens qui vivent dehors. Et là, elle a pris son chemin, le convoi prend son chemin vers la Flèche. Et arrivé à la Flèche, ce soir, il y aura lieu donc un repas, comme d'habitude, et puis des échanges autour de la lutte antinucléaire et de la lutte Notre-Dame-des-Landes.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Camille, d'avoir été avec nous en liaison téléphonique.
Avec plaisir.
Quand tu dis que les flics ne sont pas méchants,
quand tu dis
que les juges sont indigents,
quand tu dis
qu'on est bien dans une prison,
quand tu dis
qu'on est de la chair à canon,
quand tu dis
que l'on devrait rouvrir Cayenne,
quand tu dis
que nous n'avons que de la haine,
quand tu dis
que la jeunesse elle est ratée. Nous on te dit, t'as qu'à fermer. Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Nous on te dit, t'as qu'à fermer. Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Quand tu dis que l'on est tous des ratés,
quand tu dis
que nous sommes des chevelus,
quand tu dis
que notre époque elle est foutue, que nos nanas sont mal barrées,
quand tu dis
que l'on n'a pas le droit d'aimer,
quand tu dis
que l'on ne sait pas s'amuser. Nous on te dit, t'as qu'à fermer. Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Nous on te dit, t'as qu'à fermer. Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Quand tu dis que l'on est tous des obsédés,
quand tu dis
c'est nous qui t'attaquons la nuit,
quand tu dis
qu'on te pourrit la vie,
quand tu dis
qu'il faut flinguer tous les motards,
quand tu dis
qu'on est tous des sales loubards,
quand tu dis
qu'on est une bande de jeunes connards. Nous on te dit, t'as qu'à fermer.
Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Nous on te dit, t'as qu'à fermer. Nous on te dit, t'as qu'à fermer ta gueule. Oh, fermer ta gueule. Fermer ta gueule. Fermer ta gueule. T'as qu'à fermer.
C'était Gérard Vincent avec le titre « T'as qu'à fermer ta gueule » sur Campus. Vous êtes évidemment dans le sous-marin et tout de suite, c'est l'heure du cabinet des curiosités d'Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Antoine, bonsoir.
Bonsoir Pierre-Louis, bonsoir Gérard Vincent.
Alors Antoine, tu démarres avec la couverture médiatique bruxelloise d'hier soir.
Et j'espère que vous aimez les ronrons et l'humour. Hier soir, les lolcats ont investi les réseaux sociaux pour faire diversion contre les terroristes. N'ayez crainte, je vous remets tout ça dans le contexte. Pour ceux qui n'ont pas Twitter. Une opération policière liée au terrorisme avait lieu hier soir à Bruxelles, et capitale en état d'alerte maximale depuis samedi dernier. La police belge a d'ailleurs explicitement demandé à la presse et au grand public de ne pas diffuser d'informations sur ses déplacements et positions pour éviter de donner du grain à moudre pour les terroristes. Par sécurité, voilà. Il fallait donc un silence radio sur les médias sociaux concernant les opérations de police en cours à Bruxelles, selon le même communiqué de la police fédérale. Alors, manque de bol, les aficionados, excusez-moi, ont moult envie de communiquer. Alors, sur Twitter, c'est sous le hashtag Bruxelles Lockdown, Bruxelles verrouillée, qu'ils ont partagé ces millions de lolcats, permettant ainsi de minimiser la diffusion de documents qui pouvaient mettre en péril l'intervention de la police. Autant vous dire qu'ils n'ont pas été de main morte, nos amis belges, pour troller les internets 2.0. Même le grand quotidien national Le Soir, l'équivalent un peu du Figaro ou de Libération, même, parce qu'il faut dire que les Belges n'ont pas vraiment d'avis politique, au moins, sur la page d'accueil de leur site, ils ont installé un joli matou pour à la fois alimenter le lol et purger les fausses infos. Alors ce n'est pas le même avis que possède Libération, Libération qui, je vous le rappelle, et le journal qui titre, je cite, « Le gars de Miley Cyrus rentre dans les annales », qui annonçait donc sur Twitter, je cite, « Terrorisme, faute d'information, Bruxelles tweet des chansons ». Il y a donc eu des
Des chatons, non, peut-être. Plutôt que tweeter des chansons. Bah après, je sais pas.
Tweeter des chatons.
C'est
tout à fait, merci Pierre-Louis. C'est l'émotion, ça y est, je parle de chat de Miley Cyrus, forcément, il y a eu une levée de boucliers des rebelles à poils longs ou à court et à raison, et si les poils sont longs ou courts, je ne veux pas vraiment le savoir là, qui ont immédiatement rappelé les demandes de la police. Et forcément, dans le best-of, je retiendrai un tweet qui n'est pas celui d'un chat, mais @insafoo qui tweetait « Et BFM TV, c'est quoi ça, les autres, dites rien ?» à propos de la publication du soir sur la suspension de la diffusion des informations au sujet des opérations en cours, en écho à la sacro-sainte envie de la première chaîne info de France avec leur décor en fond vert et leur spécialiste en carton mythe qui ne voudrait même pas qu'un chat fasse pipi dessus, de faire du buzz et de ne montrer que des images pas nécessairement utiles ou pudiques. J'en profite donc pour vous faire deux rappels. Les Belges sont assurément des génies, les Belges sont des gens avec une créativité diablement folle, et pour retrouver les meilleures photos de lolcat, c'est avec le hashtag Bruxelles Lockdown ou Bruxelles Lockdown. D'accord, ça fait trois rappels, mais c'est pour la bonne cause, et je l'ai vérifié tout à l'heure parce que on travaille ici à Radio Campus Angers. Pour la petite histoire, la police fédérale, sur Twitter, toujours, offre une gamelle de croquettes pour tous les chats qui nous ont aidés hier. C'est merveilleux.
C'est magnifique. Et après cette bonne dose de poils, tu vas nous parler des audiences des radios sur la période septembre-octobre.
Oui, Pierre-Louis, car les médias, c'est aussi rigolo. Et autant vous dire qu'elles sont attendues, ces audiences, par les directeurs des radios, comme un twitto attend un lolcat. Vous allez me dire, pourquoi ? C'est cela qui valide ou pas la stratégie des têtes pensantes pour leur nouvelle grille. Ces audiences, elles reflètent également ce qu'on a eu envie d'entendre les auditeurs, et autant vous dire, c'est pas beau à voir, du moins pour la première radio. Et là, ce n'est pas Radio Campus Angers, la radio la plus écoutée de France, c'est pas faux d'avoir musclé la tranche 19-20 avec l'aide des meilleurs chroniqueurs, surtout le lundi, il faut bien le dire. C'est Énergie qui truste à la première place. Désolé, mais l'animateur est encore meilleur que les chroniqueurs, évidemment. Merci. Donc Énergie, avec 6,5 millions d'auditeurs par jour, c'est la station de la rue Boileau qui progresse de 0,5 points à 12%. Et oui, 12% des Français sondés écoutent des étrons. Enfin, je me demande où elle est cette sonde, justement.
Ah, avec, oui, tout le monde se demande.
Et avec un peu plus de 6 millions d'auditeurs par jour, RTL est en deuxième et perd donc son leadership. La station est en très légère baisse par rapport à la rentrée dernière. Elle perd donc 0,4 points et signe sa plus mauvaise entrée depuis 2005. Cependant, alors, il faut bien distinguer pourcentage et part d'audience. La radio est largement en tête avec 11,7% contre 7,2% pour Énergie, car il faut savoir que c'est une avance qui est due à une durée d'écoute nettement supérieure, 2h23 pour RTL contre 2h24 pour Énergie, c'est-à-dire que les auditeurs n'écoutent qu'une heure 24 des troncs contre 2h23 de grosses têtes bien lourdes sur RTL. Mais attention, avec 5,44 millions d'auditeurs au total, France Inter se démarque parmi les radios généralistes et se rapproche de RTL. C'est d'ailleurs la seule à progresser sur un an dans les radios généralistes, sur un segment qui est bien sinistré, avec 130 200 auditeurs supplémentaires et 266 600 sur une vague. Une vague, c'est en gros, c'est un sondage, une vague. Donc, elle augmente de 5,2%. La SSO signe donc sa meilleure vague depuis la rentrée 2012, portée notamment par sa matinale, dont l'encoreman Patrick Cohen est l'homme de radio le plus écouté de France, juste après Pierre-Louis, toutes radios et toutes heures confondues. L'excellente émission City Coup de j'annule tout et sa tranche 18-20 avec l'ancien directeur de Libération, Nicolas Demorand. C'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse avec Maïla Cyrus. Je n'oublie pas Europe 1 qui enregistre une nouvelle baisse avec 192 000 auditeurs égarés en un an. Donc au total, il y a 4,6 millions de paires d'oreilles qui écoutent la radio, qui est bien plombée par Cyril Hanouna avec ses mauvaises audiences et la baisse de son 6h-9h. Un véritable pram-pram des radios. Il faut savoir que beaucoup de Français écoutent la radio en se levant. RMC baisse aussi, tiens, alors ça c'est drôle, pour une fois que le populisme baisse, ça me fait sourire. Fun Radio reprend la place de seconde radio musicale la plus écoutée de France, toujours une histoire d'étron décidément. Devant Skyrock, Nostalgie, Virgin Radio et RTL2, a noté aussi les records historiques de France Culture et Radio Classique. Alors globalement, ce qu'on peut noter, c'est que les auditeurs ont davantage cherché la musique et un programme généraliste, bien que ce sondage ne prenne pas en compte les événements des Parisiens, Maliens et Belges de ces derniers jours. Sinon, vous avez le choix d'écouter autre chose, genre Radio Campus, c'est tout aussi bien, sinon mieux. Bonne soirée, bonne semaine, ciao.
Merci beaucoup Antoine, on est légèrement en retard, alors tout de suite, désolé. C'est la bulle sonore et aujourd'hui, on met à l'honneur le Garage des Freaks, une nouvelle émission qui a repris depuis 2 semaines.
Bien le bonsoir, bienvenue dans le Garage des Freaks. On est ensemble jusqu'à 19h et on va s'écouter un petit peu de Garage. Je vous propose de commencer par Human Expression. Calm me down.
I can't stay in one place. I have to move around. Well, I've got to find somebody just to calm me down. Hey!
Voilà, vous pouvez retrouver Thomas et son Garage des Freaks, c'est tous les jeudis de 18h à 19h, et sinon en podcast, évidemment. Il est 19h57, hein, c'est l'heure de remercier Mathilde Clémencel et Annick Cesbron qui ont été avec nous en début d'émission. On vous recommande évidemment d'aller voir le spectacle Mousse des Bois et Bain de Gadou au séchoir à Chanzo, ce sera mercredi et samedi. On remercie également Camille du convoi Cap sur la COP21. Puis merci à vous, Faisal, Antoine et Thibault, d'avoir participé à l'émission.
De rien.
Merci à toi, Pierre-Louis.
On salue également Quentin à la technique et Étienne à la programmation. Comme d'habitude, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.